Stéphane Fraisse, bonjour.
Bonjour Lise.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka.
C'est un bonheur.
Alors vous êtes d'habitude acteur et maintenant réalisateur. On dirait que ça faisait longtemps que ça vous démangeait, depuis le succès de votre court-métrage peut-être. Votre film s'appelle Tu choisiras la vie, il est magnifique. Vous l'aviez depuis très longtemps en tête, n'est-ce pas?
En fait, alors, je corrige deux choses. Non, je n'avais pas depuis si longtemps en tête que ça, l'idée d'être réalisateur. La chose s'est imposée parce qu'en écrivant, j'écrivais pratiquement pour réaliser ce film. C'est-à-dire que tout se construisait dans le récit que je faisais dans le scénario, tout se construisait en images. Donc au bout d'un moment, les choses sont devenues évidentes. Il fallait que je réalise ce que j'avais écrit parce qu'il se dessinait sous mes yeux. Et non, c'est pas complètement vrai. Le court-métrage m'a fait comprendre combien derrière j'étais aussi à ma place. Mais les choses sont plus complexes et je dirais presque plus difficiles à expliquer. Quand j'ai commencé ma carrière d'acteur, comme d'ailleurs nous tous dans tous les métiers, quand on fait les premiers choix dans sa vie, des choix importants, sont des choix qui donnent sens. Sont des choix auxquels, en tout cas, on donne sens. Mais la difficulté, c'est de redonner du sens à des choix qu'on a fait il y a longtemps. Et d'ailleurs, de se poser la question même si ces choix ont encore du sens. Et j'ai senti au début de la cinquantaine que, non pas que j'avais une crise de la cinquantaine, mais que j'avais une crise de sens. Et je sentais que je perdais envie en même temps que j'en donnais moins. Ou en tout cas, mon sentiment était que je ne pouvais plus en donner tel que j'étais, qu'il y avait quelque chose comme une impasse, et que je devais avoir au moins le courage de me poser la question, sinon de l'affronter. Et c'est ce que j'ai fait en me mettant à écrire. Et en écrivant, où j'ai d'ailleurs été autant acteur que spectateur de ce qui sortait, j'ai découvert que remontait à la surface toute une partie de ma vie. Toute une partie de ma vie qui avait été à peine donnée, à peine transmise. Une partie de ma vie même qui avait été plutôt tuée pour des raisons que je comprends aujourd'hui, mes deux parents étant des enfants cachés pendant la guerre, leur traumatisme était certainement très profond et il aurait été impossible de mettre des mots sur, comme beaucoup de gens de cette époque, de transmettre à la génération qui suivait, c'est-à-dire la mienne, une histoire dont eux-mêmes ne comprenaient pas exactement le sens. Et c'est pour ça que finalement faire acteur, c'est quoi faire acteur? C'est être un autre. Et d'être un autre en autre, d'autre en autre, je me suis rendu compte que non, je ne me remplissais pas. Je fuyais, je m'écartais du problème. Voilà. Donc en fait, cette lassitude m'a ramené à moi, m'a ramené à poser question. Et c'est ce que fait le film au fond, puisque vous l'avez vu. Le film ne donne aucune réponse, d'ailleurs, ce qui est très juif. Il pose question et je pense d'ailleurs que la meilleure réponse à la question, c'est encore une question.
D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez laissé une fin très ouverte où finalement le spectateur pense ce qu'il veut.
Oui, mais c'est comme, encore une fois, c'est ce qu'on vient de se dire, c'est comme, j'allais dire comme dans la vie, c'est comme tout. Face à un même événement, deux personnes ne ressentiront pas et ne verront pas la même chose. Et ce qui m'importe, encore une fois, c'est de suggérer, c'est de donner envie, c'est de faire rêver même entre les lignes, c'est-à-dire d'appeler le spectateur à se retrouver plongé face à sa propre histoire, face à ses propres questions posées ou non posées. Et comme eux, je n'ai pas de réponse.
Et on sent quand même une certaine tendresse pour ce milieu orthodoxe, Stéphane Fraisse. Est-ce que vous avez fait attention à ne pas trop les présenter comme des dingos?
Alors très sincèrement, j'ai fait attention à rien. Et je suis content qu'à la fin, en ne faisant attention à rien, j'ai fait attention à eux. Parce que je connais bien ce milieu, ma mère était Lubavitch. Et elle a fait une teshuva à l'âge de 30-32 ans. Et à partir de ce moment-là, moi qui ai été élevé absolument à des années-lumière du judaïsme, je ne savais absolument pas ce que c'était, j'avais aucun rite, aucune tradition, rien ne m'avait été donné pendant les 10-12 premières années de ma vie. Ce qui fait que quand elle a versé vers ce mouvement rabbad, j'avais deux versions de la vie. Une où mon père, je ne dirais pas agnostique, peut-être même athée, avait considéré que Dieu s'était disqualifié à ses yeux. Et une autre où ma mère, qui était une femme pleine de spiritualité, cherchait un sens à donner à sa vie. Et ce sens passait par là. Et comme toute personne qui est loin d'une chose, le retour est extrêmement intense.
ce titre justement qui est tiré d'un verset de la Bible, est-ce qu'il vous est venu tout de suite ?
Et pour compléter la réponse, je dirais que non, je n'ai pas cherché à les protéger parce qu'ils sont d'ailleurs assez grands pour se protéger eux-mêmes. Mais je considère qu'il y a malgré tout dans cette pensée juive, dans cette pensée rabbade, quelque chose de très beau, de très fort. Et je pense qu'il faut absolument faire la part des choses, ce qui est horriblement difficile aujourd'hui, d'autant plus en Israël avec ce qui se passe aujourd'hui, entre ce qui est spirituel et ce qui est politique. Je dirais même ce qui est politico-messianique, si on veut aussi un peu reprendre vraiment les problèmes qui se posent aujourd'hui. Aujourd'hui, pas seulement d'ailleurs en Israël, mais un peu partout, mais disons de manière très synthétique en Israël. Il y a un archaïsme dans cette pratique de ce monde-là qui, moi, me dépasse et même, sur certains plans, n'a pas du tout ma tendresse parce qu'il y a des questions à se reposer aujourd'hui que je trouve qu'on ne pose pas ou qu'eux ne se reposent pas assez, à commencer déjà par la place de la femme dans le monde orthodoxe, et d'autres questions auxquelles je ne donne aucune réponse dans le film, mais qui appellent en tout cas à une discussion, un dialogue et à une réinterprétation, je dirais même à une relecture, et une relecture presque plus féminine qu'elle ne l'est, parce qu'on le sait, le monde juif est d'abord un monde d'hommes, où la voix de l'homme prime, un monde patriarcal.
En tout cas, vous montrez à quel point c'est difficile et ça peut être douloureux de quitter son milieu, pas seulement pour les Juifs, aussi du côté des Italiens.
Oui, des Italiens et même, je vous dire, de tous les côtés. En fait, je parle de choses que je connais quand je raconte l'histoire d'Esther dans ce monde-là. Et d'une certaine manière, le film est universel. Je tiens à le dire parce que c'est très important, ce n'est pas un film religieux. C'est un film où deux êtres aussi différents l'un de l'autre, elle, on va dire, est plus liée au ciel, lui plus accroché à la terre. Et au fond, à eux deux, ils sont tout le monde. La question était laquelle ? Parce que je me suis...
Quitter la douleur de quitter son milieu.
Oui, mais pour les deux, en fait, le problème se pose. Pour les deux, la question se pose de qu'est-ce qu'on perd quand on quitte ? Mais est-ce qu'on quitte tout, d'ailleurs, quand on quitte ? Et comment faire que les autres entendent ce que vous quittez ? Qu'ils comprennent que vous ne quittez pas tout, que ce qu'on vous a transmis est là, en vous. Je ne peux pas dire la fin du film, mais pour lui, elle est claire. Voilà. C'est horriblement difficile. Non, parce qu'en fait, on sait que quand on a une évidence, quand on sent quelque chose de profond en soi, dans le film, je cite, ce n'est pas déflorer le film que de citer la citation de Camus qui est dans le film et qui dit qu'être différent, c'est peut-être simplement avoir le courage d'être soi-même. C'est difficile pour soi, mais c'est aussi difficile pour les autres. Et peut-être que dans ces mondes-là, dans le monde religieux, c'est encore plus difficile pour les autres que dans les mondes religieux où la contrainte est grande. Par exemple, la difficulté d'Esther, c'est que cette foi, elle ne l'a pas perdue en réalité, mais c'est qu'elle étouffe dans le périmètre dogmatique de la vie qu'elle vit.
Stéphane, donc l'Italie a ce point commun avec les Juifs de faire beaucoup de la transmission de père en fils. Est-ce que c'est un pays que vous aimez beaucoup et que vous connaissez bien ?
Alors c'est un pays oui, que je connais bien parce que j'ai épousé une femme avec laquelle j'ai vécu 25 années fortes, intenses, qui est d'origine argentine mais que j'ai connue en Italie et pour qui l'Italie était très importante. Pour moi, elle a toujours été importante, l'Italie. D'ailleurs, une personne que j'ai aimée aussi à une époque m'a dit « Tu ne le sais pas encore, mais t'es italien ». Je lui dis non, je suis ashkenaz d'origine d'Odessa. Il dit non, tout ça c'est ce que tu crois. Et en fait, oui, je suis un ashkenaz méditerranéen. J'aime ce pays parce que d'abord il y a le chaos qu'on retrouve d'ailleurs en Israël. C'est un monde de culture au singulier et au pluriel.
De bouffe.
Oui, et de bouffe aussi, de richesse d'héritage, de tradition ancestrale. Les Romains nous ont fait vivre quelques grandes histoires, nous les Juifs. Et donc c'est un pays que j'aime, c'est un pays de soleil, c'est un pays d'instinct, c'est un pays où on invente souvent les choses comme j'aime, c'est-à-dire avec ce qu'on a, et on en fait quelque chose d'un peu plus. Moi j'aime ce pays, je trouve qu'en plus de ça, le plan Tella, mon film, permettait au film d'avoir un terrain neutre. C'était pas l'Israël, j'avais pas de connotation juive, entre guillemets, avec mille guillemets. C'est un film qui plantait deux êtres, l'une juive et très pratiquante, l'autre qui ne l'était pas du tout, dans une terre qui nous permettait toutes les interprétations.
et puis qui est très belle. Ce qui, au cinéma, est pas mal.
Ah non, non, mais qui est très, très belle. J'ai été en plus servi par un chef opérateur fantastique qui a quand même le mérite déjà de s'appeler Paradisi. C'est-à-dire les paradis au pluriel en italien. Donc le gars déjà, a déjà une place, à mon avis, très, très privilégiée au Gan Eden, lui.
Oui. Bon, on lui souhaite. Il y a beaucoup de poésie dans le film, Stéphane, et vos acteurs sont en retenue. C'est comme ça que vous leur avez demandé de jouer ces personnages ?
Non, retenue, c'est un mot qui revient souvent, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé à mes acteurs. En fait, les personnages ne peuvent pas être autrement qu'en retenue, parce que elle, venant de là où elle vient, et vous le savez, dans les mondes très pratiquants, une femme qui n'est pas mariée ne lève pas les yeux sur un homme qui n'est pas son mari, et encore moins quand il n'est pas juif, qui ne vient pas de la même histoire. Donc c'est très particulier. Et lui, il y a une vraie forme morale, de respect moral pour ces gens-là. Parce que d'abord, depuis des générations, c'est les mêmes qui viennent. C'est devenu une famille, ces juifs et ces non-juifs, avec deux histoires et deux traditions différentes, mais qui se rencontrent et qui s'admirent et qui s'aiment. C'est les orthodoxes qui viennent là-bas et qui savent qu'ils retrouveront des gens qui, par respect pour la symbolique de la fête de Sukkot, feront pousser ces étrogim, ces draps. On sait que c'est très ingrat, c'est un fruit qui rapporte rien à le vendre dans le commerce. Donc, ils font ça aussi beaucoup pour perpétuer l'histoire, une histoire qui n'est pas la leur. Et je trouve ça très beau. Et donc, ce rapport entre ces deux familles est beaucoup plus fort et beaucoup plus noué et montre en fait qu'on peut très bien avoir un terrain d'échange au moins, pas seulement d'intellectuel, mais même émotionnel autour d'un sujet purement symbolique. À quoi il sert ce citron ? À rien, comme le dit le rabbin dans l'histoire.
Il sent très bon.
Il sent très bon, mais en fait, on l'a dans la main avec le loulav pour prier, point barre. On le mange pas.
Il représente un genre de juif dont on a besoin pour faire le peuple.
Mais là, on est dans le symbole. On n'est pas dans le jus de citron pressé, voyez.
Non, on n'est pas dans le jus du tout, mais.
Ou alors on est vraiment dans le jus, justement, parce que lui, il est dans le jus. C'est-à-dire que s'il n'a pas ces gens qui achètent les citrons, il ne finit pas son année, il ne la boucle pas et c'est tragique. Donc en fait, oui, ils sont liés aussi et ils sont otages de leurs propres histoires. C'est ça qui est beau. Ils sont tous esclaves. Et c'est pour ça que pour Elio, c'est très difficile de comprendre et d'avancer. On parlait de retenue. Il ne peut pas s'engager et prendre des décisions vis-à-vis de cette femme. Et on ne peut pas trop raconter l'histoire parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que ne serait-ce que par respect pour celui qui lui a donné l'exploitation, son père qui est parti, il y a un contrat moral entre tous ces gens. Et ce sont des gens qui ont une grandeur d'âme.
C'est vrai. Ça m'a fait penser à Eri De Luca, le film Stéphane Fraisse. Est-ce que c'est un auteur que vous connaissez et que vous aimez ?
J'ai eu la chance de rencontrer Eri il y a un ou deux ans en Italie, justement pendant le montage de mon film avec ma nouvelle compagne. Et bon, j'avais lu quelques livres de lui, le poids du papillon. Les titres m'échappent là tout de suite, mais c'est un monsieur que j'estimais beaucoup. C'est un monsieur qui vit dans la montagne et en même temps, c'est un grand érudit de la Bible, tout en n'étant pas juif. Il a une espèce d'érudition et de connaissance de ce monde-là et de fascination même qui est assez troublante, hein, quand même.
Ce qu'il étudie tous les jours.
Il étudie tous les jours, en fait. Bon, c'est pour ça que mi yéhoudit, qui est juif, franchement ? Eri De Luca, il ne l'est pas ? Dans ce nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'on fait de lui, Eri De Luca ? Je pose la question.
C'est pas moi qui vais vous donner la réponse.
Non, mais moi je l'ai, la réponse. Il y a des gens comme ça qui sont dans les mondes très pratiquants, on dit c'est des neshamot, ce sont des gens qui ont une âme juive. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire en réalité, je sais juste que quand on est attiré à ce point par le texte et qu'on en fait ce qu'il en fait, c'est admirable. En tout cas, on ne peut pas les tenir, on peut pas les mettre de côté, ces gens-là, ils sont importants.
Il me reste deux questions, Stéphane Fraisse. La musique, parce qu'il y a plusieurs scènes qui sont très jolies. Vous avez fait très attention, j'imagine, à ça.
Oui, alors j'aime la musique. J'ai écrit en musique. Les musiques, d'ailleurs, qui sont dans le film sont des musiques qui m'ont accompagné pendant l'écriture. Et l'une est italienne. Et si on parle l'italien, c'est merveilleux parce qu'en fait, elle raconte cette allégorie de l'homme qui est en prison et qui depuis la fenêtre de sa prison, voit de l'autre côté de la rive une femme qui ouvre chaque matin les fenêtres de sa maison. Et il lui dit, Maria, j'arrive, tu seras ma femme un jour. Et Lucho Dalla, l'auteur de la chanson, dit que les années passent toutes les années en même temps, c'est très beau, et qu'il est toujours là dans sa prison. Et ça nous ramène à la difficulté à s'arracher à ce qui nous ancre dans nos histoires trop. Il y a cette histoire, et puis il y a la chanson de cet auteur géorgien que j'adore et dont je ne connaissais pas le sens d'ailleurs avant de le rencontrer, mais qui m'a fait fantasmer. Et je trouve qu'elle glisse très très bien dans le film. Et puis j'ai la chance d'avoir Giovanni Mirabassi, qui est un grand jazzman italien qui a composé les musiques originales du film. Moi, c'est très important la musique, même si on n'en a pas tant que ça.
Non, mais c'est des scènes fortes. Ma dernière question, Stéphane Fraisse, j'imagine que vous avez réfléchi sur le concept de destin. Au début, quand ils sont dans la voiture, Esther lui dit « Oui, j'aime pas cette histoire de l'Arche de Noé, parce qu'on nous fait comme ça, et puis finalement, après, on n'est pas content. »
Ben oui, moi, je trouve absurde de créer l'homme dans un endroit où il pourrait s'épanouir, mais de lui mettre un croche-patte, un piège, un fruit qu'il ne faut pas croquer, enfin, quelle histoire. C'est très bon, les fruits, pour la santé. Mais c'est vrai. Et alors, on croque dedans, et après, on devient mauvais, et après, il faut payer toute sa vie pour réparer l'erreur. Non, ça, vous ne me le vendrez pas.
Merci beaucoup, Stéphane Fraisse, d'avoir été avec nous.
Merci à vous tous.
Je rappelle que votre film s'appelle « Et tu choisiras la vie ». Il est sorti la semaine dernière. Allez-y.